la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Et on va recevoir quelqu'un d'extrêmement curieux aujourd'hui puisqu'il s'agit de Laurent Jarige. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, peut-être on va annoncer ce que nous venons d'entendre. C'est Autocar, je crois.
Oui, Autocar.
Et c'est extrait de quel album ?
Alors ça, c'est extrait de l'album qui s'appelle « Joue Elvira Tatum », qui est un album dans lequel j'ai réenregistré les versions des morceaux d'Elvira Tatum que je n'avais pas pu enregistrer avec le groupe de l'époque et qui sont des versions à ma sauce, c'est-à-dire où je joue comme j'aimerais entendre chacun de ces morceaux.
D'accord. Bon, on reparlera plus tard de Elvira Tatum. Mais d'abord, je voudrais te poser la question. Tu es basque et il y a une forte tradition vocale en Euskadi.
Oui.
T'as-t-elle influencé ?
Ah oui. Oui. Enfin, d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas vraiment basque. Je suis né au Pays Basque, mais je ne suis pas du tout... j'ai aucune racine au Pays Basque.
D'accord.
Non, j'ai eu toute une éducation là-bas et je suis très attaché à cette région, à ce pays et à cette langue, mais je ne les maîtrise pas du tout. Je ne suis pas du tout... tu vois, donc, quand tu dis « je suis basque », en fait, pour être basque, il faut pouvoir parler. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris là-bas, en tout cas. Ouais, moi, je ne parle pas du tout le basque.
Ok. Bon, alors, ma question d'après, c'était « est-ce que tu es attaché à ce lieu ?» Donc, j'ai l'impression...
Oui, je suis très attaché à ce lieu. Et la principale influence que j'ai reçue de là-bas, musicalement, vient de Beniat Achiari, le chanteur improvisateur, auprès de qui j'ai suivi des cours au conservatoire de Bayonne et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé.
Oui, donc la tradition vocale basque, c'était ma première question, elle t'a influencé, effectivement.
Ça, et puis aussi, il y a un exercice qui vient du Pays Basque, que tu connais peut-être, qui vient des Bertsulari, qui signifie les faiseurs de vers. Ce sont des improvisateurs qui improvisent à la fois le chant, une mélodie, et des textes, avec tout un tas de codes qui définissent leur exercice. C'est un exercice au sens où il y a des normes et c'est des concours. Il y a des concours de Bertsulari et il y a beaucoup de chansons traditionnelles basques qui viennent des Bertsulari.
Bon, alors, tu sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale. Nous sommes le 14 juillet. Et c'est la fête nationale en France. Et est-ce que ça t'évoque quelque chose ?
À part le bal des pompiers, pas grand-chose, non. Et puis le feu d'artifice sur la tour Eiffel, non.
Concernant le chant, j'aimerais savoir quelle a été ta formation musicale. Mais n'oublions pas que tu es guitariste également.
Oui, je suis de formation de guitare classique. À domicile, je prenais des cours de guitare avec un professeur magnifique qui s'appelait Monsieur Cadic, qui était un monsieur qui se déplaçait avec sa vieille de chevaux à domicile, qui parcourait des vingtaines et des trentaines de kilomètres pour aller chez les gens et puis et pas forcément chez des riches, je veux dire. Hein, c'était des cours pas chers à domicile et c'était un monsieur merveilleux qui m'a vraiment donné le goût de la guitare au départ classique et puis plus tard après j'ai passé 5 ans avec lui et puis ensuite j'ai découvert plus le rock'n'roll et j'ai fait de la guitare électrique.
C'est une bonne école. Et alors, comment a débuté ton histoire musicale ? Comment ça commence tout ça ?
Elle commence à dater, mon histoire musicale. Mon histoire musicale, elle a toujours été là. Avant, je faisais un peu de piano aussi, parce que mes parents m'ont forcé à faire des activités musicales, parce que sportives, ça ne m'intéressait pas trop. Et du coup, j'ai commencé donc par du classique. Ça m'a, à part le rapport avec la guitare, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis au lycée, j'ai rencontré un groupe qui s'appelait Suppositoire, au lycée de Bayonne, et avec qui j'ai joué un petit peu. Et puis là, ça a été un peu la claque, parce que j'ai découvert le rock'n'roll et qu'on pouvait faire des choses avec la guitare complètement différentes. J'écoutais déjà un petit peu de rock'n'roll, mais très du rock'n'roll du très grand public, disons. J'écoutais les Beatles, j'écoutais des choses comme ça. Et puis là, c'était, on sortait de la période punk. Et puis il y avait des mecs là au lycée qui chantaient des conneries, quoi, des textes très vulgaires et qui jouaient plutôt bien, ouais. et de façon très énergique.
T'as commencé suppositoire, là. C'était un groupe de reprise ou vous faisiez des créations ?
Non, c'était des compositions de Frédéric Velès, qui est une personnalité de Bayonne et qui m'a beaucoup influencé aussi. Je parlais de Beniat Hachari, mais avant Beniat Hachari, il y a quand même Frédéric Velès, pas tant sur la technique, mais sur l'art de vivre, qui m'a beaucoup influencé, sur l'art de vivre, la musique notamment, même si lui ne fait plus du tout de musique maintenant.
Ah d'accord. Quand est-ce que tu te mets à chanter ? Est-ce que tu chantais dans ces groupes-là, suppositoire ?
Non, pas du tout, je ne chantais pas. Je faisais de la guitare ou de la basse. Ouais. Et puis ensuite, je me suis mis à chanter. Alors encore un peu plus tard, je suis parti m'installer à Bordeaux un petit peu pour faire quelques études. Et puis là, j'ai travaillé à la Rock School à Bordeaux. Ouais. Et là, j'ai rencontré pas mal de groupes, dont un qui s'appelle Reading Street, qui a été important aussi pour moi, dans lequel je faisais la basse. C'était un trio, guitare, basse, batterie. Et puis eux, ils m'ont donné vraiment envie de faire mes choses. Bon, j'avais toujours des choses dans mon coin, mais c'est à ce moment-là, je date plus vraiment, que j'ai commencé à faire un groupe avec des instruments classiques. D'ailleurs, au début, j'avais été pêcher des gens au conservatoire. Et c'était des chansons un petit peu rock, à texte, et de poésie assez... assez tristoun, quoi.
Ah,
plutôt déprimé, quoi.
Mélancolique.
Un peu mélancolique et pas très heureuse, quoi. Pas très joyeuse.
On verra que ça a beaucoup changé. Bah, peut-être je propose de retourner dans les albums précédents que tu as fait. Alors, il y en a pas mal, on en parlera tout à l'heure. Je crois que le premier date de 1999.
Ouais, voilà. Le premier, c'est justement cette époque. C'est avec les gens de Reading Street que j'ai pu enregistrer ça, parce que lui, il avait du matériel pour enregistrer. Et donc, on a fait ça. C'était un premier album avec des gens de Bayonne, justement, qui étaient montés, des musiciens avec qui je jouais.
Ouais, ouais. Bon, alors, on va pas écouter un extrait. On va écouter deux chansons. Alors, peut-être tu peux nous parler des albums auxquels ça correspond. Ça correspond, il y a Catalonque et Durouli. Alors, c'est extrait de quel album ?
Alors, ça, c'est deux albums différents. Catalonque, ça vient de juste un arrondissement. C'est un album de 2000, enfin, qui a quelques années. Ouais. C'était un album dans lequel je voulais faire une chanson par copain à Paris. Hein.
Ah, d'accord.
C'est pour ça qu'il s'appelle juste un arrondissement. Et c'était idéalement, hein, dans chaque arrondissement, il y avait un copain et pour qui je faisais une chanson. Ouais. Et bon, finalement, ils sont tous dans le 20e. Mais...
d'accord. Ouais.
Et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas, elle est assez dure à jouer. Elle est un peu complexe dans sa structure. Et donc, on arrive quand même à la jouer, mais en galère un petit peu à chaque fois, parce qu'il faudrait un peu plus de mémoire vive pour garder ça, en tout cas pour la jouer telle qu'elle est dans l'album. Mais je l'aime beaucoup. Je sais pas comment elle est venue ni rien, mais elle est très importante pour moi, cette chanson.
Jamais ne l'emmène, année de combattre. sage, à des dizaines de nos massages, à manettes et à
Nous venons d'écouter Catalonque et Du Roulis Galère. C'est ça, Du Roulis Galère.
Oui,
alors, Du Roulis Galère. Qu'est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette dernière chanson ?
Eh bien, cette chanson, elle fait partie des rares chansons qui sont instrumentalisées, où il y a un peu de guitare dessus et de la basse. Extraite de cet album qui s'appelle Chanchant et dans lequel il n'y a quasiment que du chant. C'était vraiment, j'avais envie de faire un disque. En mettant en avant la voix, et que la voix est sans effet, sans rien, d'être un peu comme chez soi, quoi, comme à la maison. Et avec des chansons qui sont pour la plupart des improvisations.
D'accord. Alors, on va peut-être aborder Elvira Tatoum. Quand est-ce que tu vis à Paris alors ? Est-ce que tu nous as parlé de Bayonne, Bordeaux ?
Je suis à Paris depuis 1998.
Ah d'accord. Ouais, alors, comment arrive cette formation Elvira Tatoum ? On dit comme ça d'ailleurs ?
Elvira Tatoum, elle arrive un petit peu après 98. J'ai pu faire une école de cinéma en formation professionnelle. Mmh. Et du coup, j'ai rencontré
des étudiants ?
Des stagiaires de cette école, oui. Avec qui on a fait une association qui s'appelle Bayonne Arrive, dans laquelle on faisait du cinéma. On faisait des films, on faisait des courts-métrages essentiellement, mais on a fait aussi quelques longs-métrages. Et ensuite, on a organisé des projections, parce qu'on n'avait pas trop d'opportunités pour diffuser nos films, donc on s'est mis à organiser des projections, puis les projections sont bien passées. Oui. À tel point que ça a duré, cette histoire, ça a duré 5-6 ans.
Parce que c'est fini maintenant ?
C'est fini, ouais. On fait plus de... Alors, ponctuellement, de temps en temps, on organise une projection quand on a des films, mais on lance plus d'appels à films.
D'accord.
On ne réceptionne plus de films. Tous les films qu'on faisait, chacun de nous fabriquait la musique de ces films. Et Elvira Tatum est née, en fait, d'une série de films... Qui contenait des musiques composées. Ouais. Et Elvira Tatum a été le groupe au début qui s'est mis à jouer ces musiques-là sur scène.
D'accord. Alors, juste une parenthèse, tu continues à faire des films ?
Oui, ouais, bien sûr. Oui, je continue.
Est-ce qu'on peut les voir ou...
Alors, on peut voir des choses sur Internet, mais sinon, ils ne sont pas trop diffusés. Là, je reviens d'un voyage au Kosovo avec une autre aventure de ma vie, qui est celle de Tumulus, organisée par Philippe Ahmed Pras, qui envoie des gens en Europe de l'Est. Et moi, je suis en tant que vidéaste. Ouais. Et donc, je suis parti pour faire un film là-bas.
D'accord. Ouais.
Donc oui, je continue de faire des films, et puis c'est une partie de mon métier d'en faire.
Oui, d'accord, c'est ça, parce que tu n'es pas musicien professionnel, alors, si ?
À moitié. À moitié musicien professionnel, et à moitié... Je suis intermittent du spectacle, moitié musicien, et à moitié technicien audiovisuel. Au départ, il y avait Laura Zornita.
Ouais.
Il y a même eu un passage très court au tout début de Sullivan Corredo. Mais c'était surtout Laura Zornita qui chantait d'ailleurs et qui faisait partie de Elvira Tatum. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Sébastien Tidga, qui était le batteur d'Elvira Tatum. Et ensuite Farid Cheklit, qui est le bassiste.
Ah bah d'accord, oui, avec qui tu joues encore. Mais ça a duré combien de temps ?
Ça a duré... On ne sait pas si c'est terminé.
Ah ok.
Non. On ne sait pas trop si c'est fini. C'est-à-dire si jamais... C'est-à-dire qu'ils ont préféré, je dis ils parce que moi j'aurais bien continué comme ça, ils ont préféré que le groupe continue si jamais il y avait plus de moyens, c'est-à-dire soit qu'on était payé, soit des moyens humains dans le public.
Ah d'accord, voilà. C'est très bien dit ça. Bah écoute, on va écouter un extrait. Comment tu définirais un genre musical ? Je sais pas où ça nous.
Alors on a choisi world pop pour Elvira Tatum.
C'est ce qui me semblait. Ouais.
Ça vient de là, world pop. C'est parce que on est très inspiré de la world music on a une façon de jouer plutôt pop rock.
D'accord. Bah je propose qu'on écoute le morceau Papette.
Papette.
In September, I'm
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invité du jour, Laurent Jarige. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, Laurent. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est pour ça qu'on... Hein. La question que tout le monde se pose, les auditeurs doivent se la poser, c'est pour quelles raisons utilises-tu des onomatopées et pas des mots ?
Je n'utilise plus de mots. J'en utilisais au début. Je faisais des chansons parce que je faisais des chansons avec du texte parce que j'avais pas du tout imaginé qu'on puisse chanter sans texte. C'est-à-dire ça se faisait pas. Et puis quand je me suis rendu compte qu'on pouvait, j'ai enlevé ça parce que c'est plus. Ça serait très long hein, d'expliquer ça. Hein,
tu peux résumer.
Je peux essayer de résumer, mais. Alors déjà, dans les chansons, personnellement, je comprends quasiment jamais le texte qui y est dit si je ne le lis pas. Ouais. Sur le. Alors je retiens si le titre, j'arrive à le repérer le titre quand il est dit. Ouais. Le titre. Et d'autre part, je trouve pas beaucoup d'intérêt dans cette forme de texte sur les chansons. La forme qu'impose une chanson au texte ne m'intéresse pas plus que ça, personnellement. Ouais, ouais. Et donc, j'ai enlevé ça parce que c'était un calvaire un peu pour moi d'écrire des textes sur des chansons. Et puis, la plupart du temps, en plus, ça, chez moi, c'est la musique qui vient avant le texte. Je ne viens pas du texte pour faire une musique. Je viens d'abord de mélodies, de musique. Et puis, c'est très difficile parce que quand tu as une mélodie, tu peux pas, enfin une mélodie, un chant, disons, tu peux pas mettre n'importe quel mot dessus. Si je fais Yanamayo Kumo, par exemple, disons, je vais pas pouvoir placer sur la plage, au bord d'une île.
Oui, d'accord.
Ça va être, tu vois, et bon, moi j'ai un chant qui est comme ça, qui est en tout cas, même si dans quand je fais des chansons composées, ouais. Je reprends un peu toujours les mêmes mélodies au chant, j'ai avec ça la liberté de pouvoir chanter différemment quand je le souhaite.
Pour t'avoir écouté en concert et puis des auditeurs, des fans, des gens qui te suivent, avec qui j'en ai parlé, nous avons l'impression tout de même que pour une même chanson, tu répètes plus ou moins les mêmes onomatopées.
Pas toujours. Et en particulier, ce que j'aime bien dire, je le fais pas tout le temps parce que je suis pas éveillé partout au même moment, mais j'aime à ce moment-là, au moment où on me dit que je redis les mêmes choses, là je vais chanter différemment.
Ah d'accord.
Parce que du coup, sinon je vais considérer que ça vous lasse ou que ça, tu vois, parce que je joue pas tous les jours, je suis pas en concert tous les jours malheureusement, j'ai besoin de surprises, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin de surprendre même les musiciens avec qui je joue, je veux dire, j'aime bien quand on est un petit peu en porte-à-faux avec les musiciens et qu'il y a des choses qui peuvent surprendre, qui peuvent changer, qui peuvent faire tomber un petit peu le faire basculer le navire un petit peu, tu vois. Et ça en fait partie, c'est-à-dire faire enlever quelques repères de texte ou d'onomatopée. Mais cela dit, c'est pas pour ça que je mets pas le texte. Hein. Je veux bien qu'il y ait des choses qui reviennent, notamment le titre des chansons. Ah, moi aussi, ça revient souvent. D'accord. Tu vois, c'est d'ailleurs le titre est extrait d'un moment où je peux pas faire autrement, on dirait, de chanter comme ça. Mmh. Mais euh, Mais voilà, parce que la question, si je peux la retourner, me permettre de la retourner, c'est pourquoi avez-vous besoin du texte? Pourquoi avez-vous besoin d'entendre un texte quand vous entendez une voix? Pourquoi ça, parce que j'en parle comme ça, parce que vraiment, on me le reproche depuis des années, années. On me même des groupes dans lesquels... par exemple, Elvira Tatoum, souvent m'a dit, il a fallu des années avant qu'il cesse de me dire, mais pourquoi tu mets pas un texte? Tu veux pas mettre un texte, s'il te plaît, ça passe mieux, c'est plus... Bon, alors pourquoi les gens ont besoin d'un texte dans une chanson? Est-ce que c'est pour mieux retenir la mélodie? Je sais pas, mais je n'y tiens pas.
D'accord. Bon, très bien. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de texte aussi. Alors, par contre, j'avais cette idée, alors tu vas me dire que c'est une interprétation personnelle peut-être oiseuse, mais est-ce qu'il y a une critique du discours, du trop-plein de paroles médiatiques, politiques, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Alors il y a une critique en tout cas des textes des chansons, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que les chansons... Par exemple, tu vois, il y a un truc qui m'est venu il n'y a pas longtemps. Parce que je pense souvent à ces questions-là. Souvent, je pense, parce qu'à chaque fois que je sors un disque, encore, il y a des gens qui me disent « Mais tu devrais expliquer pourquoi il n'y a pas de texte. » Bon, on me le dit souvent. Donc, du coup, je suis amené à y penser souvent. Et par exemple, il y a cette idée que chanter en anglais... que l'anglais est plus mélodieux et plus joli à chanter que le français. Ça passe mieux l'anglais. Et pourquoi ça passe mieux? Je me suis dit, peut-être, c'est parce qu'on ne le comprend pas.
Ah oui, c'est sûr.
On ne comprend pas ce qui est dit. Ouais. Si jamais on comprenait aussi bien l'anglais qu'on comprend le français, peut-être qu'on trouverait que l'anglais n'est pas une très jolie langue à chanter, rock'n'roll ou ce genre de musique-là. En règle générale, les textes des chansons ne me plaisent pas. Et quand ils me plaisent, à part quelques exceptions, mais vraiment par rapport à la mémoire qu'on a de toutes les chansons qu'on a en tête, de toute notre vie musicale, notre bande-son musicale, la majorité des textes sont inintéressants et n'ont aucune valeur pour moi, n'ont vraiment aucun intérêt. Je pense par exemple des trucs triviaux comme Brel, Brassens, des textes comme ça.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, tu vois.
Voilà.
Ça, pour Brassens, quand même, il y a la mélodie, il y a la musique et
tout
le
texte. Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est vraiment une exception par rapport à tout ce qu'on a, c'est une exception. Et quant à d'autres, il y a d'autres artistes qui ont des textes très beaux, mais qu'on ne comprend pas lorsqu'ils sont chantés.
Oui.
Ou lorsqu'ils sont orchestrés. On ne les comprend pas, donc c'est un petit peu dommage, quoi.
Et par rapport à ce que je te demandais, la logorée médiatique et tout ça, tout ce discours, trop plein de discours...
Non, je n'écoute pas ça. Avec la musique, je n'écoute pas ça. Je ne suis pas saturé. Je suis saturé par, effectivement, les médias, les médias, les publicités, tout. Je suis saturé de textes et de propos. J'essaie de ne pas me laisser... Ouais. Épongé par ça.
On va se contredire, évidemment, dans une telle émission, il est difficile de faire autrement. Tu as tout de même écrit des textes dans certaines chansons. Je pense à ce qu'on va écouter maintenant, Merci, tu vois.
Oui, il y en a quelques-unes. Mais ça, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est parce que le texte vient avant. Il y en a une autre dans ce même album où il y a un texte qui vient de parce que c'était une musique pour un des films. Et c'était des comédiennes qui devaient chanter. Ah oui. C'était un film de qui s'appelait Les Amouraïs. Et il y avait des comédiennes qui devaient chanter une chanson à un moment donné, du texte, quoi. Et donc, j'ai fait la musique à partir de ce texte. Donc là, tu vois...
C'est quel album?
C'est Ma Genouille.
Ah d'accord, bon, on écoute?
Ouais.
T'aimes pas ton boulot, mais tu sais pas quoi faire. Les rares jours où tu ne bosses pas. Tellement t'es con. Merci d'aller bosser comme un couillon. Tellement que t'as peur du patron et de tes collègues comme toi. Merci de bosser et de cotiser des couillons comme toi qui n'y toucheront jamais. Tandis que moi, je profite de ce que tu fais. Oh, c'est sûr, j'ai pas autant que toi, mais j'ai de quoi le dépenser.
Alors nous venons d'écouter Merci, un court morceau de Laurent Jarige. J'ai compté 12 albums à ton actif. Est-ce que ce sont des vrais CD physiques, je veux dire, des objets physiques, ou est-ce que ce sont des albums virtuels sur Internet?
Oui, ce sont des vrais albums physiques à petit tirage. Il y a simplement 100 exemplaires de chacun de ces albums et qui ne sont pas écoulés du tout. J'essaie de les vendre dans les concerts ou alors, enfin voilà. Mais il y a aussi la version virtuelle sur Internet qui, elle, marche à fond. Ça. Et voilà, j'ai découvert ce procédé de pouvoir faire des CD en autoproduction il n'y a pas longtemps, dans les années 2000. J'ai découvert que ça revenait pas à un fric fou et j'aime bien l'objet, j'aime bien ça et j'aime bien les distribuer après, les donner. Oui. Alors je m'en sers pour essayer de trouver un label ou des choses comme ça, mais ça marche jamais.
Et est-ce que tu enregistres dans des conditions de vrai studio ou est-ce que tu as un home studio à la maison?
Alors j'ai un home studio à la maison, la plupart du temps c'est ça, la plupart des disques c'est fait en home studio à la maison, et sur certains il y a des parties qui sont enregistrées en studio, je loue un studio de temps en temps pour enregistrer telle partie ou telle guitare ou tel truc.
Alors, je me demandais aussi également les premiers morceaux qu'on a entendus, extraits de l'album où tu reprends les Elvira Tatum. Est-ce que tu joues de tous les instruments ou est-ce que tu te fais aider par tes potes musiciens ?
Non, là, je joue de tout et je me fais aider surtout par les machines, par les logiciels, ouais. Où il y a des samples. Pour les batteries, par exemple, je joue pas du tout de batterie, donc c'est des samples que j'assemble et que je refais et comme des maquettes.
Ouais.
Et le reste, j'essaie de jouer toutes les parties. Ouais.
Ah d'accord. Bon. J'ai cru déceler dans ta musique des influences africaines, caribéennes, voire, puisqu'il y a un morceau qui s'appelle Papette, océaniennes. Je me trompe ou ça fait partie vraiment de tes influences, ces musiques-là?
Oui, ça fait vraiment partie de mes influences. Ça fait partie de la musique que j'aime, la musique de Myriam Makeba, c'est-à-dire qui ne composait pas d'ailleurs, c'était des musiques traditionnelles africaines que j'ai beaucoup aimé. J'ai cherché à la rencontrer d'ailleurs, je suis parti la voir une fois. Je suis parti en Afrique du Sud une fois pour essayer de la rencontrer, puis j'ai fait un voyage assez joli où j'ai simplement réussi à l'avoir au téléphone le jour de mon départ, de mon retour.
Ouais.
Et puis du coup, elle m'a demandé... je lui ai expliqué que j'étais venu en Afrique du Sud pour qu'elle m'apprenne un chant. Parce qu'elle a un chant très particulier, tu sais, avec ces langues-là de où il y a les clics dans les mots. Ça me plaisait beaucoup, ça. Et parce que du coup, elle faisait le rythme et la mélodie, un rythme percussif, en plus de la mélodie. Et du coup, elle était très sympa au téléphone. Et puis, je lui ai dit, j'étais venu pour que vous m'appreniez un chant. Et là, je venais de Paris. Et elle me dit, vous savez, j'ai un appartement à Paris, j'y suis souvent. Alors, j'ai pris ça pour une perche. Je lui ai dit, est-ce que vous me donneriez quelques cours à Paris? Et là, elle m'a répondu, vous savez, je n'ai jamais appris à chanter.
Génial.
Donc je n'ai pas trop compris, à part que c'était un nom, mais je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait me dire sans le dire, mais j'ai trouvé ça joli. Et donc j'ai continué à l'aimer.
Eh bien, il me semble que tu as une chanson, une reprise de Myriam Makeba qu'on pourrait écouter.
Et oui, oui, c'était sur l'album Nouille, celui qui est juste un arrondissement. Et c'est un album dans lequel Nouille, on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais on aurait pu, parce que l'album Nouille, justement, j'en avais marre de ces histoires de pas de texte, il n'y a pas de texte dans tes chansons. Ouais. Et du coup, pour l'album Nouille, j'avais fait des intermèdes de texte, c'est-à-dire que j'avais mis du texte, c'était pas le texte des chansons, mais dans cet album, il y a une chanson et ensuite un texte. D'accord. Ensuite une chanson, ensuite un texte. J'ai dit que c'était des interludes et donc c'était du texte mais pas chanté, lu, qui est mis dans le CD comme des plages d'un disque. Et dans cet album, j'avais prévu de mettre une reprise que j'ai faite de la chanson Aluta Continua. Et puis pour les autorisations, la SACEM, j'avais demandé à la SACEM si je pouvais donc mettre cette chanson sur le disque. Ils m'avaient renvoyé vers les ayants droit de cette chanson parce que Myriam Makeba n'était plus de ce monde à ce moment-là. Mmh. Et les ayants droit ont refusé que j'exploite cette chanson dans cette version-là. En tout cas, ils m'ont pas donné les raisons précises, mais ils ont dit non.
Eh bien, écoute, moi je propose qu'on va l'écouter.
On a le droit ?
Ben oui.
Ben allons-y.
Que eu mordei e não calamense.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et notre invité, Laurent Jarige. Alors on vient d'écouter une chanson, une reprise de Myriam Makeba.
Oui, Aluta Continua.
Voilà, très très jolie. Hein.
C'est beau, merci.
Bravo, bravo.
Alors, je suis content que ça te plaise.
Alors, oui, bah oui. Bah, tu sais que sur Radio Libertaire, la lutte continue. Hein, ça,
exactement.
Ça, en ce 14 juillet, ça nous parle autrement plus que les défilés militaires. J'ai vu que tu jouais, t'as beaucoup joué en duo avec Farid Cheklit, puis en trio avec le batteur Dominique Bazas,
oui.
Puis avec un quintet, Gérard Poulain et la chanteuse dont tu parlais tout à l'heure.
C'est même un septet, puisqu'il y avait Roberto Robao aussi.
Oh là, bon, d'accord. Bon, tout ça pour te demander, est-ce que ces formations sont, ces musiciens sont là pour accompagner tes chansons extraites de tes albums solo?
Oui, c'est la version, c'est la version concert des chansons des albums. On joue que ça. On a pas beaucoup de temps pour répéter avec ces gens-là. On répète un peu sur scène du coup, c'est une rencontre. Farid, bon, c'est voilà, je le connais depuis très longtemps. C'est un garçon qui aime beaucoup beaucoup jouer. Et beaucoup, beaucoup joué en concert, surtout.
Ouais.
Et du coup, il est sans arrière-pensée, très, très, très partant systématiquement. Dominique Bazas, c'est un garçon qui n'a pas beaucoup de temps, qui a une vie très, très remplie. Et du coup, lui, il va très vite aussi. Il n'a pas besoin de beaucoup de répétitions pour venir interpréter les morceaux. Et ce qui lui plaît, c'est de s'amuser sur scène avec des gens, avec des musiciens. Avec un peu d'alcool, avec bon. Et donc, c'est un mélange qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup jouer avec eux. Et ensuite, les trois autres que tu as cités, c'est Alison Allen qui fait des chœurs. Elle, on a travaillé un petit peu avec quand même, puisqu'elle a enregistré notamment des chœurs sur l'album Joue Elvira Tatum. Gérard Paulin et Roberto Robao sont des improvisateurs pour qui il a été facile de s'intégrer dans ces proposition.
Alors, l'un des musiciens, dont je tairai le nom, m'a dit qu'il n'était pas du tout aisé de t'accompagner sur scène parce que tu ne respectes pas trop les structures de tes propres morceaux. Est-ce vrai ?
Bien sûr, oui, oui. Ah. C'est ce que je te disais, parce qu'il n'y a pas trop de structures. Il y a des structures sur les enregistrements, puisqu'ils sont enregistrés. Oui. Mais après, sur les interprétations, ça change souvent. Et on aime bien ça.
Bah, j'ai l'impression que t'as un problème avec la règle, avec les trucs trop figés, non ?
J'ai un problème avec l'ennui. Par exemple, effectivement, ça se voit aussi sur les chansons. Là. Pas tellement celles que tu as écoutées là, mais en règle générale, du fait qu'il n'y ait pas de texte en plus à défendre, mes compositions, souvent, elles se résument à un couplet, un refrain, un couplet, un refrain, si je peux m'exprimer comme ça. Mmh. En tout cas, très peu de parties. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris tel passage de la chanson, on ne va pas la refaire 10 fois. Mmh. Tu vois, une fois qu'on l'a comprise, on passe à un autre morceau et puis voilà, et le morceau est fini.
Alors, je parlais de règles, moi, parce que je voulais aborder un aspect de ta création qui me fascine, moi, qui vraiment, je me demande bien ce qui te passe par la tête. On t'a vu récemment à la Pointe Lafayette, l'avant-veille, le vendredi avant le premier tour des élections, faire un concert de casseroles, par exemple, tu vois.
Oui.
Ouais. On va écouter tout à l'heure un extrait d'un concert que tu as fait en double avec Sullivan Corredo. Explique ce truc-là, parce que vraiment, c'est...
Alors, c'est une date mensuelle que j'ai à la Pointe Lafayette depuis le mois de septembre, et où j'ai un peu carte blanche, je peux y faire ce que je veux.
Alors, la Pointe de la Fillette est un bar situé à Jaurès, à la station Jaurès à Paris.
À la station Jaurès, et qui a l'avantage, il y a une cave en bas, et il y a l'avantage de pouvoir faire du bruit un peu fort et un peu tard, ce qui est plutôt rare à Paris. Ouais. Donc, vraiment, je suis très content de cet endroit, même si ça va se terminer finalement. Mais bon, bref, j'ai passé une année merveilleuse là-bas pour les soirées. Et donc, j'ai fait de la programmation, j'ai programmé des groupes copains ou pas. Voilà. Et puis j'ai joué à chaque fois, je me servais bien sûr dans la ripaille. Et au bout d'un moment, il fallait trouver un peu des choses un peu nouvelles, il fallait trouver des choses un petit peu originales, un peu qui changeaient. Bon, voilà. Et donc j'ai pensé à ça, ça m'est venu, je ne sais pas comment, mais j'ai pensé à proposer un duo en simultané. C'est-à-dire, on était Sullivan et moi, chacun jouant ses chansons. Voix, guitare, électrique, au même niveau. Hein. Et on jouait en même temps notre concert personnel, simultanément donc, en faisant les pauses quand elles devaient avoir lieu.
C'est-à-dire que l'autre continuait
L'autre continue pendant ce temps, son morceau s'il ne l'a pas terminé. On est parti en même temps, on est arrivé en même temps, mais entre-temps, on a fait chacun son concert avec ses petits laïus entre les morceaux.
Je propose qu'on écoute un court extrait de cette expérience assez inouïe.
D'accord.
Et car mon matin, je fais à mon séché. Et car mon ma bombe, et car mon venu voit changer. Fais l'amour et rougir. Et car mon voit changer. Et maintenant, regarde maman. Et là, comme ça, maman.
Je ne serai plus là. Quand tu seras seul pour traverser
le
quand tu
n'auras plus de nous va tout.
Je ne sais pas si c'est.
Fais l'amour et tu m'amènes. Et Carlo nous va tout.
Thank you.
sympa de venir parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de jouer. À Paris, c'est de plus en plus difficile et on est obligé de partager des scènes parfois. Manque un peu de salle et de temps. Donc merci de
voilà, alors c'était donc un extrait du double concert. Laurent Jarige et Sullivan Corredo. Merci à Gérard Paulin de nous avoir transmis l'enregistrement. Alors, double concert, concert de casserole. J'ai même entendu dire que tu avais eu l'idée d'une fanfare avec 10 basses. J'aimerais savoir d'où te viennent ces idées saugrenues et qu'est-ce qui sous-tend, selon toi, cette envie furieuse de faire n'importe quoi ou du moins de faire ce qui te passe par la tête.
C'est un petit peu mon pas mon métier, mais c'est un petit peu ce que je dois faire dans la vie. C'est un petit peu ça. Je suis constamment en recherche de projets, de nouveautés. Ça fait partie de mon travail, disons, de chercher des choses et de chercher un petit peu, effectivement, des choses originales, des choses qu'on ne connaît pas encore. Bon, alors je tente, mais j'ai plein de projets comme plein de monde a plein de projets.
Oui, mais là, t'avoueras que c'est quand même des idées assez saugrenues. Moi, c'est ça qui m'intéressait.
Oui, alors sur les basses, par exemple, tu veux dire Non, c'est une recherche de son, c'est une recherche un peu d'expérimentation sonore, de voir ces effets-là, qui souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, je me plante, je n'en suis pas très satisfait, je ne suis pas très content du résultat, même si la plupart du temps, je n'ai pas les moyens de mes idées. Donc, il y a un côté technique qui peut décevoir, disons. J'arrive à entrevoir que ça, c'est pas de très bonnes idées.
Donc, tu les abandonnes.
Donc, dans ces cas-là, oui, je les abandonne. Ces cas-là, oui. J'essaie de tenter un minimum, tu vois, parce que souvent, en plus, on idéalise un peu. Mais après, je les abandonne par bon, oui, par exemple, j'imagine qu'un grand compositeur saurait que 10 basses, ça sert à rien. Il n'a pas besoin de le tester pour.
Bien sûr.
Bon. J'ose espérer que d'autres diraient non, on va peut-être tenter quand même, et puis on va essayer d'agencer ça pour qu'on les entende bien et tout ça. Bon, après.
Alors, est-ce que tu en as d'autres, des idées comme ça un peu bizarres?
Non, pas plus que ça. Pas plus que ce que. Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite. Alors, j'aimerais aborder le collectif. Alors, on a parlé de Bayonne-Arrive pour le cinéma. Il y a le pendant de Bayonne-Arrive. Je pense que c'est Upper Music.
Oui, Upper Music.
Upper Music. Peux-tu nous en dire quelques mots?
Bien sûr. Upper Music, c'est un projet. Effectivement, comme tu dis, c'est vraiment un pendant de Bayonne-Arrive sur le franc musical.
Ouais.
Sur le flanc musical. Ça vient d'une réflexion à trois avec Stéphane Rombi,
ouais.
À quatre, pardon. Stéphane Rombi, Mika Sixou et Gauthier Pape, où on s'était dit que, au départ, j'avais une idée, moi, je voulais faire un salon du musicien à Paris, un salon. Comme on fait les salons des métiers, comme ça. Je m'étais rendu compte qu'il n'y a pas de corps de métier musicien. Il n'y a pas l'ordre des musiciens, par exemple, tu vois, comme il y a dans la plupart des métiers. Et je me suis dit, ça serait bien de lancer un peu cette réflexion-là pour essayer de faire valoir des droits beaucoup plus pragmatiques sur notre vie parisienne et nos difficultés à jouer, à jouer dans les conditions qui nous satisfont, à ne pas se faire avoir dès qu'on va dans les cafés, à imposer un petit peu des nos décisions, nos choix.
C'était un aspect syndicaliste alors plutôt.
Un peu, oui. Oui. C'était un peu ça. Et puis c'était, je m'étais dit que les musiciens manquaient de ça. Les musiciens étaient beaucoup plus unis et pouvaient se syndiquer plus ou moins. En fait, je crois qu'ils peuvent pas, mais après. Ouais. Mais je me disais ça. Et donc voilà. Et puis on s'est dit ça. Donc on s'est dit on va commencer par nous. On va faire déjà un collectif de groupes et pour pouvoir peser un petit peu dans les balances et avoir accès à des salles plus importante que lorsqu'on s'y présente en solo.
Ouais, ouais, ouais.
Et d'ailleurs, ça a fonctionné, ça a plutôt fonctionné, ça, cette partie-là. Ce qui n'a pas fonctionné après, c'est que bon, ben voilà, on n'est pas vraiment un collectif. Bon, voilà, on n'est pas des groupes qui avons envie de travailler en collectif, ou en tout cas pas de façon formelle. Bon, donc ça continue quand même. Hyper Music continue. Il y a des activités toute l'année. Il y a eu des activités encore. Mais
le 21 juin, nous avons assisté à une excellente fête de la musique.
Exactement. Voilà, ça fait partie des choses auxquelles on tient encore à organiser au Théâtre Populaire.
Voilà. Alors, tu as parlé de Mika Sixous. Peut-être on peut aborder ton duo Iva.
Bien sûr.
Comment ça s'est créé, ça? Sur quelle base? Sur quelle idée? Pourquoi être resté en duo, finalement, voix, contrebasse?
Ça s'est créé, je ne sais plus comment. Au tout départ, ça s'est créé avec Liping Ting, qui est une performeuse que j'avais rencontrée grâce à Tumulus en 2009, ouais, lors d'un voyage en Europe de l'Est. Et on avait commencé à travailler ensemble avec Liping Ting, à faire un atelier vocal, mmh, où on était 5-6 dans cet atelier. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, il y a eu la rencontre avec Mika. Et puis, on avait commencé un truc avec Mika et Liping, tous les trois. Et puis, Liping est partie. Elle a quitté la France. Donc, cela dit, ce n'est pas parce qu'elle est partie qu'on a continué qu'à deux. On avait déjà commencé à deux. On a décidé, voilà, de tenter quelque chose. Et puis, on s'est mis à travailler. On a trouvé une cave dans un café à Paris avec qui on a dealé qu'on répétait gratuitement là-dedans. En échange de quoi, les répétitions étaient publiques.
Voilà.
Il n'y avait pas de public, cela dit. Les portes étaient ouvertes. Ouais. Et donc, on a répété là-dedans. Puis, on a commencé à jouer. Puis, après, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on organise. Enfin, tout ça s'est fait très rapidement. Hein. On s'est mis à organiser une soirée mensuelle au Théâtre Populaire du Renitas.
Ouais.
Et c'était une soirée durant laquelle on invitait une personne à venir, une personne ou un groupe à venir jouer avec nous, à venir jouer tout seul et avec nous.
Ouais.
Et voilà, et l'aventure a duré. Ah
bah, on vous avait reçu à l'époque dans notre émission pour parler de ces soirées-là, justement. Mais tu n'as pas répondu à mes questions. Pourquoi ne pas avoir essayé d'étoffer le groupe? Pourquoi être resté dans la forme de duo?
Ah, alors on est resté dans la forme de duo parce qu'on était acoustique. Mika joue de la contrebasse, et moi je joue du chant, et on était sans, c'était acoustique, quoi. C'était sans électricité du tout. Alors, on aurait pu intégrer, je sais pas, si peut-être qu'on a essayé d'intégrer des gens. L'idée au départ d'avoir un invité à ces soirées, c'était aussi effectivement de rencontrer des musiciens pour intégrer le duo. Mmh. C'était un petit peu ça. Mmh. Au moins partager des expériences, et si avec certains ça pouvait amener à quelque chose d'autre, on avait plus ou moins envie de ça, et puis très vite on s'est rendu compte qu'on était dans une on s'est rendu compte qu'on a appris à se connaître très fort tous les deux. Et du coup, c'était difficile de faire venir quelqu'un, tu vois. Et puis la forme de duo nous convenait très bien parce qu'on pouvait aller partout, même si on est allé nulle part, on pouvait aller partout très facilement.
Ouais. Alors, dans Iva, tu pratiques une forme de chant beaucoup moins mélodique que sur tes chansons. Est-ce que ce sont deux pratiques différentes pour toi, que tu appréhendes différemment et pour lesquelles tu travaillerais distinctement ou...
Oui, c'est deux pratiques complètement différentes, même si je trouve que, avec Iva, une de mes préoccupations, c'est la mélodie quand même aussi. C'est aussi, ouais. J'essaie de faire en sorte que mon chant soit mélodique. Il est mélodique et rythmique. Et un peu tribal. Là, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation, oui. sans réflexion, sans rien, sans préalable, sans thème, sans rien. C'est vraiment, on joue comme on le sent et on essaie de se couper un peu du monde, de se couper un peu de tout, de toutes les influences. Souvent, on a l'impression, on se dit qu'on revient aux ancêtres de la musique un peu. Mmh. On revient à des choses très primitive, très... Alors tribal, on essaie de faire tribal un peu dans le sens où on fait des boucles, on joue des trucs, on fait tourner un peu des trucs en rond, et puis on essaie d'y mettre de la danse dedans.
Ah oui. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est... tu nous disais que tes chansons n'étaient pas calibrées, on pouvait les interpréter un peu comme on voulait. Qu'est-ce que t'apporte la musique improvisée, du coup? Alors qu'est-ce que ça change?
Eh ben, la musique improvisée, c'est que justement, là, il n'y a absolument aucune structure. Il y a, enfin, tel que je la pratique.
Il n'y en avait déjà pas beaucoup.
Ah si, il y en a quand même. Il y a quand même des ouais. Oui.
Et c'est quoi la différence? Alors, ça t'amène où, l'improvisation?
Ça m'amène à une pratique complètement libre. Vraiment une musique qui est loin de tout, qui est loin de quand je dis de tout, c'est de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qui peut nous toucher, nous influencer. Elle est vraiment impossible. C'est une musique impossible. C'est une musique qui n'est que qui échappe à tout. Pourquoi ça me plaît, je sais pas. C'est un goût de se sentir nulle part et au même endroit, et un goût de faire travailler des sens, de les exciter d'une façon un peu inhabituelle. Même si on a beaucoup d'habitudes de la musique improvisée, hein, mais à chaque fois ça fait quelque chose de même pas différent, de vraiment de qui nous échappe, quoi, dans lequel on peut se perdre, on se perd certainement.
Perdons-nous avec l'écoute d'un extrait du duo Yva.
Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec notre invité Laurent Jarige. On vient d'écouter le duo Iva avec Mika Sixus à la contrebasse. Et je voudrais savoir, est-ce que l'ensemble Citrouille, qui a succédé à Iva au Théâtre Populaire, je voudrais que tu nous en parles un petit peu, nous dises sur quelle base a été formé cet ensemble de 8 musiciens. Alors là, on passe d'un duo à carrément un big band.
Oui, alors ben ça c'était effectivement, c'est un peu la succession pour moi de Iva. Pour moi, c'est ce qui a suivi Iva. Parce que on peut pas tout faire, quoi. On peut pas. Mais c'est un vieux rêve de jouer avec plein de gens et de jouer quelque chose de sur la durée, tu vois, de quelque chose de construit, d'essayer de fabriquer quelque chose. Mais bon, c'est difficile d'avoir plein de groupes en même temps. Mais ouais. c'est en ça que c'est pas du tout la succession de Iva pour moi.
Ah d'accord.
Non. Ouais. Et donc, c'est la rencontre avec des gens, grâce à Iva, effectivement, des gens, la plupart ont été invités dans les soirées. Oui. Et puis ensuite, des amis de ces gens-là, qui se sont enchevêtrés. Et ça s'est limité à 8 parce qu'il n'y en a pas plus qui se sont proposés d'intégrer le collectif. Et c'est des instrumentistes très variés. Il y a tout un tas d'instruments. Et c'est que des improvisateurs. Enfin, ils ne sont pas que improvisateurs, mais là, ils ne sont que improvisateurs. Donc, dans Citrouille, rien n'est écrit. Et Citrouille, c'est une belle aventure parce que ça part comme ça un petit peu au casse-pipe, sans trop se connaître, même si on se connaît vaguement. Et puis, dans le temps, en ne travaillant pas comme des fous non plus, on se voyait une fois par mois, plus quelques répètes. J'en parle au passé, parce que là, on est en vacances jusqu'en septembre.
Tu m'as fait peur.
Mais c'est pas... Non, c'est pas... Donc là, on a passé une année à se chercher un petit peu et à construire un peu un rapport entre nous et qui est plutôt chouette.
Alors moi, je voulais savoir pourquoi tu n'utilises pas un micro, nom de Dieu, dans ton dans Citrou, et même dans Iva, quand tu improvises.
Mais parce que, alors, déjà, il y a un problème technique de l'utilisation d'un micro, c'est que je bouge pas mal quand je chante. Je fais des gestes et je bouge pas mal. Donc il faudrait que j'ai un micro qui soit... qui soit collé à moi,
un ou casque,
je sais pas comment, un micro casque par exemple, pour pouvoir, mais c'est pas commode du tout, ça me plaît pas du tout. Ça, c'est c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que je défends le chant naturel, le chant, je défends le pas seulement que le chant, certains instruments, je les défends comme ça. C'est pour ça que l'IVA a duré aussi longtemps. C'est parce qu'on se plaît aussi dans cette acoustique avec la contrebasse. Et moi, je n'aime pas, je n'aime pas quand le chant est... quand il est maquillé, quoi, disons, quand il est... et Dieu sait si j'aime je n'aime pas spécialement les gros chanteurs, tu vois, qui ont des grosses voix formatées, disons. J'aime les accidents de la voix. J'adore entendre les gens chanter, quelle que soit leur voix, sincèrement. Et je n'aime pas ne plus entendre la voix des gens sous prétexte qu'elle est... enjolivé, c'est ce que les gens disent d'ailleurs, parce qu'on a le droit de ne pas trouver ça joli non plus. Quand il y a une réverb, par exemple, la réverb, c'est ce qu'il y a de plus évident. Bon, mais alors en plus, dans un petit théâtre comme dans lequel on joue, ou les cafés dans lesquels on joue à Paris, ça sert à rien. Je trouve que ce n'est pas joli. Je trouve que ce n'est pas joli. Moi, j'aime la voix comme ça, comme quand elle est, tu vois, quand on l'entend bien, quand elle est là, quand on l'entend bien, pour dire que quand on l'entend telle qu'elle est, véritablement, quand on l'entend vrai, quand on l'entend naturel.
Il nous reste peu de temps dans notre émission, et tu vois, le temps va vite, le temps tourne. Tu vois, je pourrais presque écrire des textes pour toi, si tu veux. Hein, tu vois,
ouais.
J'ai des formules poétiques.
Mais tu pourrais les dire à côté, ça m'empêcherait.
Je voulais parler de ton projet actuel, là, tu as un disque qui sort C'est ta collaboration avec Aussard, alors son prénom
Roland.
Roland Aussard, ça c'est très étonnant. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Alors Roland Aussard, c'est un monsieur que j'ai rencontré l'été dernier, qui vit à Albi et qui s'occupe d'un lieu qui s'appelle le Frigo à Albi, qui est un très joli lieu en centre-ville, associatif, et qui a un peu d'espace, qui organise des expositions, qui présente des soirées de théâtre et de musique, bien sûr, et qui fait une soupe tous les mois, la soupe du 15, où, donc les gens viennent, et puis pour une modique somme associative, eh bien, ils partagent une soupe, et ils amènent d'autres trucs à manger, à boire, etc. Et Roland, par ailleurs, est un musicien, compositeur et co-inventeur d'un instrument qui s'appelle le mélisson, qui est une espèce de moog. C'est un ensemble de boîtes, ce sont des boîtes, alors il y a trois ou quatre types de boîtes, certaines ce sont des générateurs, d'autres ce sont des filtres, et puis, bon, etc. Et puis il les branche avec ses jacks, entre elles, et puis il fait des sons avec ça, il improvise. Et puis on s'est rencontrés donc au Frigo l'été dernier, et puis par l'intermédiaire de Eric, Eric c'était le chanteur-guitariste de Reading Street qui vit à côté d'Albi, qui m'a dit « il faut absolument que tu ailles voir ce gars, il a un instrument terrible ». Donc j'y suis allé, et puis on s'est dit « est-ce qu'on joue ensemble ?» Et puis bon, on a joué un après-midi là-bas, c'était en plein été, il n'y avait personne au Frigo. Et donc on a joué, puis on a été un peu surpris, bien heureusement surpris. Et du coup je lui ai dit « écoute, tu veux pas qu'on fasse un disque ?» Il m'a dit « oui ». Et donc du coup on a travaillé sur ce disque, et puis on a trouvé un très bel endroit pour enregistrer à côté d'Albi, justement, le studio Vintage, qui est géré par Luis Mazzoni, qui est un ingénieur du son fabuleux, qui est originaire d'Argentine, qui est un grand monsieur avec une énorme bouche, qui sourit tout le temps, des longs cheveux blancs, et qui est super joyeux et qui adore le hard rock, et qui nous a vu arriver et qui a plutôt apprécié. Mais Roland Aussard, donc, qui est peintre aussi par ailleurs, donc c'est lui qui a fait la pochette de ce disque. Et donc c'est un duo de musique improvisée. Et voilà, on sort le...
Voix et mélisson. Alors ça sort quand, tu allais dire?
Là, c'est sorti.
Ah, c'est sorti.
C'est sorti, là.
D'accord. Là. Et alors, tous les morceaux s'appellent Lou?
Oui, il s'appelle Lou. Tu vois que c'est sorti?
Oui, je sais bien. Ouais.
Il s'appelle Lou. Mais parce que ça, c'est pareil, il n'y a pas de texte sur ça. Et donc, c'est Lou, ça vient de un des sons qu'on entend dans une des plages. On entend Lou qui sort de la plage comme ça, et ça nous a plu. Et donc
il sort pas du bois, le Lou, il sort de la plage.
Oui, il sort de la... Tu vois, c'était ça s'est terminé, cette histoire-là s'est terminée au début de l'été. Et du coup, on a gardé ça. On a dit, on va mettre ça. Et puis pour la suivante, on s'est dit, est-ce qu'on fait... On a réécouté pour essayer de trouver... On aime bien trouver des... Enfin, on ne se connaît pas bien avec Roland. Je parle un peu pour lui, là. Oui. Mais... On s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme titre. Mais du coup, on va extraire un son de la plage, et puis on avait en tête le Lou de la plage précédente, donc on l'a remis, on avait envie de réentendre ça, donc on a mis Lou partout.
Et je propose d'écouter Lou.
I did a memory so keen, and then I did a memory. Thank you. And listen, I did on my way, still tending on my line. A sun-goal.
Voilà, c'était Lou de Laurent Jarige à la voix et Roland Ossard au Mélisson.
Oui.
Alors, on va terminer l'émission avec la question traditionnelle. As-tu des projets dont nous n'avons pas parlé, des projets en cours ?
Alors, il y a toute l'année qui va se préparer, là, au mois d'août, avec les copains de Citrouille, avec les copains Farid et Dominique. Avec un dont on n'a pas parlé trop non plus, là, dans cette émission, qui est Stéphane Rombi, qui est peu le Hyper Musique, mon chef d'Hyper Musique. Donc, c'est un peu trop tôt. Là, c'est vacances, disons. Vacances, même si je vais continuer de travailler au mois d'août. Hein, je suis intermittent, alors je ne peux pas.
Bon. Bien sûr.
Je te dirais, moi, personnellement, j'ai un disque qui va sortir
voilà,
là.
C'est ça, voilà.
Oui, ben voilà, il y a un disque qui est en cours d'enregistrement, tout n'est pas enregistré. Mais je t'ai amené une chanson quand même qui s'appelle Faux Voice, qui annonce un peu la couleur. Ouais. Et c'est rien de très nouveau, hein, c'est dans la lignée de ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a quand même un truc aussi, il y a une pièce de théâtre que je dois apprendre par cœur. Là, au mois d'août, que Thomas Lasblaze m'a écrite.
Ouais.
Et donc, c'est un monologue qu'on va essayer de monter, là, cette année.
Très bien.
Thomas Lasblaze, c'est un mon acolyte de cinéma. C'est avec lui qu'on avait fait le film Si j'étais Sarkozy.
Je me souviens de ça. Ouais. Donc, cinéma, musique et maintenant théâtre. Alors, les dates de concert, non, c'est un peu trop tôt, j'imagine.
Trop tôt.
Tu as un site internet ?
Il y a un site internet où j'annonce tout. Et puis, on peut suivre aussi sur le site de Hyper Musique, par exemple, sinon.
Très bien. J'ai juste une dernière question, Laurent. On pourrait dire de toi que, comme beaucoup d'autres musiciens qu'on accueille dans notre émission, que ce gars-là, il est un peu cinglé. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je crois pas que je sois cinglé. Je suis bien terre à terre, je suis bien à côté de mes pompes.
Ouais. T'es bien à côté de tes pompes.
Ouais, je suis vraiment à côté parce que ça pue. Je me préfère me mettre plutôt à côté. Et je sais pas toujours trop ce que je fais, mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Ma vie est assez simple.
Bon, très bien, c'est une belle conclusion. Je te demandais ça parce que pour introduire le fait que la semaine prochaine, dans Les Oreilles Libres, on débute notre grande série de l'été. L'an passé, il y avait eu les monologues auxquels tu avais participé d'ailleurs.
Mais oui.
Cette année, nous allons faire une série intitulée « Musique de ouf », consacrée à la folie, aux troubles mentaux et tout un tas de sujets autour de ça. Nous n'aborderons que quelques thèmes de ce très vaste sujet en 6 émissions du 21 juillet au 25 août. Et la première sera la semaine prochaine et c'est Marco Caccialupi qui l'assurera. Le titre sera « Entrée dans la folie », je crois, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Laurent Jarige, d'avoir participé à cette émission.
Merci à toi.
Merci beaucoup à toi. On se quitte avec ce morceau « Faux Voice ».
Faux Voice.
Faux Voice. Allez, salut à toi.
Salut.